Tout pour investir, la place de l'IMO.
Alors c'est vraiment tout pour investir aujourd'hui parce qu'on va vous aider à investir ou pas dans une passoire thermique. On a invité quelqu'un qui va vous outiller avec Marie Cœur de Roi. Bonjour Marie.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Notre invité aujourd'hui, c'est le cofondateur de GoFlint, Mikhaïl Gavrioiu. Ça va ?
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête de GoFlint et surtout à l'origine d'une grille de lecture pour aider les gens. Les wannabe investisseurs qui pourraient vouloir tout miser ou miser un peu sur l'achat d'une passoire thermique. Bon, on connaît le contexte, Marie.
Bah oui, on connaît le contexte.
Mais on l'a pas.
Moi, j'appelle la régie, je veux le voir, ce décompte. Pourquoi le contexte? Bah parce qu'on a l'interdiction à la location des passoires thermiques qui arrive bientôt. Donc, on l'a. En 2025, tous les logements classés G seront interdits à la location des comptes puisque c'est au 1er janvier.
Aux nouvelles locations.
Aux nouvelles locations. Oui, attention. Oui, c'est vrai que c'est une.
Si vous avez un locataire, vous pouvez le garder.
Exactement, jusqu'au renouvellement du bail.
Tout à fait.
Quand même. Parce que si votre renouvellement du bail intervient pile au 1er janvier, c'est pas de bol, quand
c'est
même.
Pas de bol.
C'est pas de bol. Et après, ce sera 2028, si je ne m'abuse, pour les logements F et 2034 pour les logements.
Quelle maîtrise du calendrier, c'est la seule femme de France qui a tout compris.
C'est ça, tout compris, je ne sais pas, mais... Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a depuis, plusieurs années,
oui,
avec des spécialistes de l'investissement qui nous disent, il y a des superbes opportunités à acheter une passoire parce que, évidemment...
Mais ça, c'est ce que vous entendez, cher Marie.
Oui, bien sûr, mais c'est ce que tout le monde entend. Vous allez être conseillé par votre... qui va vous dire... Mais, si vous achetiez une passoire thermique, superbe décote, machin.
Si,
je vous assure qu'il y en a plein qui le conseillent. Du coup, ma question s'adresse à Mihai. Est-ce que je le fais vraiment ou pas? Est-ce que c'est une vraie opportunité d'investir à date dans une passoire thermique?
Ça dépend du marché et ça dépend surtout de votre prix d'entrée. Ce qui va être intéressant avec une passoire thermique, on va avoir deux cas. Alors, le premier, c'était, j'avais une discussion il y a quelques semaines avec une entreprise qui fait de la rénovation et qui me disait donc ça et ça. Pardon, dans le Grand Ouest. Donc en fait, j'écoutais les caractéristiques du bien idéal du point de vue du thermicien. Et ce que j'avais en tête, c'était un Rubik's Cube. Et je lui ai dit, donc en fait, idéalement, il faut habiter au cœur du Rubik's Cube. Comme ça, on n'a aucune exposition à l'air, à la lumière, à rien du tout. Ça l'a fait rire. Je pense qu'on n'habite pas encore dans des Rubik's Cube.
Un Rubik's Cube ou une grotte, du coup?
Ou une grotte.
Oui. Mon bunker.
Le bunker,
ça c'est pour bientôt, par contre.
Mais quand on est sur un projet d'acquisition pour habiter ou pour investir, on va avoir... la maison. Et la maison, généralement, c'est moins contraignant parce qu'une maison qui est sur son propre terrain...
Bah, on peut faire ce qu'on veut.
On peut faire plus ou moins ce qu'on veut. C'est rare d'aller se frotter à la mairie, par exemple. On peut faire notamment de l'isolation par l'extérieur. Qui est la solution la plus rentable puisqu'on n'a pas de perte de surface.
Et on n'a pas de copro.
On peut toucher son toit comme on le souhaite. On peut faire l'isolation par le sous-sol. La majeure partie, en revanche, des biens qu'on va acheter... surtout pour investir, ça va être de l'habitat collectif, ça va être de l'appartement. Et là, on va commencer à entrer dans une aire de jeu qui est beaucoup plus intéressante, parce que l'appartement, il va être souvent dans une copropriété. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre qu'on n'est pas seul, on n'est pas maître à bord de son appartement. Si on veut faire de l'isolation par l'extérieur, vous achetez un appartement au 5e étage, la copropriété n'est pas d'accord, la mairie n'est pas d'accord, parce que vous n'allez pas avoir un empiétement en haut de l'immeuble qui va apparaître tout d'un coup. Vous allez faire une isolation par l'intérieur. Ça, c'est une perte de surface.
Alors, juste, on va s'arrêter là deux secondes, Mihai, parce que moi, alors, il faut que je raconte à nos auditeurs et téléspectateurs. On s'est eu au téléphone avec Mihai hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et là, il me dit, Marie, je suis dans mes calculs. En gros, il a pris, mais je ne sais pas combien d'algorithmes ou de trucs. Moi, il m'a perdu à ce moment-là en me disant.
J'ai pris une feuille de papier.
Déjà, c'est énorme. Pour calculer la perte de surface. Quand on fait de l'isolation par l'intérieur, il faut nous donner des exemples concrets, Mihai, parce que parfois on s'en rend pas bien compte. Parce que oui, effectivement, c'est intéressant, on gagne de la valeur à avoir un logement performant, mais si on perd de la surface en échange.
Prenons un appartement. Vous allez prendre un appartement qui est super d'un point de vue appel, un appartement qui a trois extérieurs. Donc ça va être un immeuble qui va être en bout de rue. Vous allez avoir trois façades exposées au choc thermique. Vous allez avoir trois côtés avec des fenêtres. C'est super. D'un point de vue visibilité, vous n'avez probablement pas de vis-à-vis. Vous êtes très heureux d'avoir cet appartement-là. Si vous dites que cet appartement-là fait à peu près 49 mètres carrés, vous allez avoir trois murs qu'il va falloir isoler par l'intérieur. On avait le débat, est-ce que c'est 10 cm, 15 cm, 20 cm? Prenons 15 cm.
Parce qu'il y a quoi? Il y a la plaque de BA13, on s'est dit, on en parle ou pas?
On en parle pas.
À l'intérieur, vous mettez de la laine de roche, de la laine de verre. Voilà.
Attendez, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément experts, aujourd'hui, quand on fait de l'isolation par l'intérieur, ça va jusqu'à combien de centimètres d'épaisseur?
Jusqu'à 20 en moyenne, en fonction du mur. Parce qu'après, tous les murs n'ont pas le même choc thermique. Mais si on prend 15 en moyenne, sur cet appartement qui fait 49 mètres carrés, donc c'est un carré de 7 mètres de côté, vous avez trois côtés qu'il va falloir isoler, vous perdez 6,4% de votre surface. Vous perdez 3,2 mètres carrés pour l'isolation. Si on regarde ce qui se passe d'un point de vue marché dans certaines villes, des villes comme Nantes, comme Nice, si vous passez d'un DPEG à un DPED, donc on va dire que ce n'est pas un bien ultra vertueux, mais c'est un bien qui est sûr d'un point de vue réglementaire, vous pouvez espérer un gain de valeur qui va de 5,5 à 6%. Donc là, vous absorbez plus ou moins la perte de surface. Ce qu'on n'a pas pris en compte, c'est le coût des travaux. Le coût des travaux, ça va être des choses plus ou moins contraignantes, parce que qui dit plus d'isolation dit une meilleure ventilation de l'appartement, donc ça va être la fameuse VMC. Vous avez des contraintes sur les fenêtres, et là, est-ce que c'est une fenêtre PVC classique, ou est-ce que la copropriété vous dit, ah ben non, nous on veut des fenêtres de tel type et tel type, et ça peut doubler le prix de la fenêtre, on peut passer peut-être de 1200 à 2400 euros la fenêtre, ça n'est pas neutre dans votre budget. Et ensuite, est-ce que vous êtes éligible à des aides?
Ouais, ma prime rénov, certificat d'économie d'énergie.
Voilà. Ou en tout cas, ce que vous pouvez faire, mais ça n'est pas une aide, c'est un prêt, c'est l'éco-PTZ, qui est sans condition de revenu, mais c'est un prêt.
Donc, mais Mihai, vous avez oublié quand même deux, trois petites choses, c'est-à-dire à la fois les gains en dépenses énergétiques, et puis surtout, à date, oui, effectivement, la surcote pour un bien mieux noté qu'une passoire thermique, vous me dites, dans ces villes-là, c'est plutôt 5%, mais demain, à mesure que l'échéance, on peut remettre le timing, que l'échéance approche, sans doute que cette surcote, à contrario, la décote, le gap sera beaucoup plus important. Donc, de fait, ma valeur de patrimoniale sera aussi plus importante.
Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Mais à contrario, si je suis dans une ville comme Marseille, comme Paris, comme Bordeaux, ce calcul qui marchait plutôt bien pour Nantes ou pour Nice marche beaucoup moins bien. Parce que là, on a des variations de valeur liées au DPE qui vont de 0 à 2% sur ce type de bien, qui va être un T2 de 40.
Et par contre, un prix au mètre carré qui est tellement énorme, qui là me fait perdre, si je perds des mètres carrés, là.
Ça va vite. Ça va très vite.
Donc mais ça veut dire quoi, Mihai? Ça veut dire que je vais pas faire les travaux?
Non, ça veut dire que là, vous avez tout intérêt à faire comme tout bon investisseur et un investisseur professionnel, par exemple un fonds d'investissement qui achète un immeuble, son premier ou deuxième budget, ça va être l'audit technique du bien. En tant que particulier, on n'a pas ces ressources-là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà s'appuyer sur l'agent immobilier, parce que l'agent immobilier qui vend une passoire thermique, il a en tête le fait que l'acquéreur a lui-même fait sa propre étude et va chercher à avoir un prix plus avantageux. Donc vous pouvez demander à l'agent quels sont les PV d'AG, quel est ce qu'on appelle le DTG, le diagnostic technique global de l'immeuble qui doit être fait pour tout immeuble de copropriété qui a plus de 10 ans. Donc en fait, c'est des immeubles qui étaient soit neufs, mais certains commencent à vieillir, qui va vous identifier les faiblesses. Pour ces immeubles-là, depuis le début d'année, les copros de plus de 200 lots, mais d'ici 2026, toutes les copros seront obligées d'avoir un DPE collectif qui va vous dire, au niveau de l'immeuble, on peut améliorer la toiture. C'est très bien. On peut améliorer la façade. Une fois de plus, la fameuse isolation par l'extérieur. Et là, ça n'est pas vous tout seul qui vous y collez. C'est toute la copro qui part dans ce projet.
C'est-à-dire que ce DPE collectif va nous donner les feux verts ou les feux rouges sur les travaux qu'on va pouvoir enclencher.
Ou pas, parce qu'ils sont déjà prévus par la copro elle-même. Donc ça n'est pas de l'argent qui va sortir de votre poche, en tout cas directement, parce que peut-être que les budgets ont déjà été votés. Vous allez avoir le plan, alors le PPT, le plan pluriannuel de travaux qui va vous dire dans les 15 prochaines années, voilà là où on veut améliorer l'immeuble. Et quand vous regardez donc ces documents-là, et l'agent immobilier, n'hésitez pas à le solliciter pour qu'il vous dise c'est là, là et là que votre question va être répondue. L'isolation par l'extérieur, c'est le meilleur point qu'on peut faire.
Ouais, enfin vous citiez Paris, c'est quand même avec, je pense évidemment, aux immeubles haussmanniens, là pour le coup c'est mort.
Donc on passe au deuxième point, qui est éventuellement le chauffage de l'immeuble, si tant est qu'il y a un chauffage collectif. Est-ce que la copropriété a prévu des axes d'amélioration? Le seul point vraiment rouge, c'est si on parle de copropriétés qui sont chauffées au fioul, parce que là, vous allez être très handicapé sur la capacité à faire grand-chose, vous, en tant que propriétaire. Troisième point, pour l'haussmannien, si on est plutôt pareil, en hauteur sans vis-à-vis, ça va être la toiture. Est-ce que la copro a voté elle-même ça, ou est-ce que c'est vous qui allez vous arranger avec la copro en disant, OK, on renouvelle la toiture, ça bénéficiera à l'ensemble de la copropriété parce que le DPE collectif va s'améliorer.
Compris.
Troisième axe d'amélioration. Et quatrième point, dont on parle finalement assez peu, c'est l'isolation par le sous-sol qui contribue pour le moins.
L'isolation par le sous-sol?
Donc ça va être par exemple si vous avez des caves, est-ce que vous allez commencer pouvoir je perds mon français, est-ce que vous allez pouvoir mieux isoler la perte thermique qui va se faire par le dessous de l'immeuble? Parce qu'une cave c'est froid, c'est humide. Et si, notamment, vous avez des logements au rez-de-chaussée, bah, eux vont être directement affectés par ça. C'est un peu la corollaire de la toiture.
Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ces cas-là, alors on va parler peut-être un peu technique, mais j'imagine que ça intéresse 2-3 personnes qui vivent en rez-de-chaussée, justement.
Vis au rez-de-chaussée, ça m'intéresse tout à fait.
Et ben voilà, c'est pour vous, Lorraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va supprimer les caves? C'est quoi
non,
les...
Non, ça veut dire que vous allez refaire l'isolation, par exemple, des caves. Si c'est de la pierre brute, vous allez chercher à, peut-être à faire un coffrage. Qui va permettre...
Mais de fait, on va perdre de la surface sur les caves aussi.
Sur les caves. Vous allez probablement perdre de la hauteur.
Mais c'est un moindre mal.
C'est un moindre mal, en tout cas, si vous êtes en
rez-de-chaussée. Assainir pas mal de caves, notamment, je pense, dans les immeubles parisiens ou dans les villes.
Mais ça, c'est quelque chose que vous ferez plutôt avec la copropriété que vous toute seule, oui. De dire, attendez, moi, je refais toutes les caves parce que j'ai mon...
Juste la cave en dessous de chez toi.
Quoi. Mais alors, après, il faut s'assurer que ça corresponde bien à la surface
au boulot,
de
votre appartement.
Mais
c'est ça, comment se faire avoir.
Ça, c'est la difficulté.
Mais du coup, de tout ce que vous nous dites, Mihai, moi, je trouve ça hyper enthousiasmant parce que ça veut dire qu'aussi, on n'est pas complètement contraint de renoncer à des mètres carrés, qu'il y a plein d'autres outils et leviers pour essayer de gagner des notes de DPE. Moi, je voulais quand même démarrer par est-ce que ça vaut toujours le coup ou pas d'investir dans une passoire. Moi, le sujet, c'est ça, c'est comment j'arrive à savoir. Parce que on a commencé cette interview, votre réponse était ça dépend, ça dépasse quoi. Donc, à un
ça
moment
dépend de la ville. Moi, déjà, j'ai retenu
ça. De la ville.
Ça dépend de la ville, ça dépend de la nature de l'immeuble, ça dépend de la nature de la propriété, ça dépend de plein de choses.
Tout à fait.
Et donc, pas mal comme information.
Oui,
ça.
Mais le ça dépend. Comment je fais pour savoir moi? Parce que l'agent immobilier, vous êtes gentil, mais il a pas forcément toujours. Ils savent très bien que je reconnais les compétences et l'expertise qu'ils peuvent nous apporter, mais sur ces calculs finalement de rentabilité et d'intérêt.
Ça, c'est à vous de le faire.
Et comment je le fais en fait?
Vous allez soit vous avez la chance d'avoir un ou deux artisans que vous connaissez qui vont venir faire la visite avec vous. Ça va être super parce que l'artisan va vous dire directement voilà les forces, voilà les faiblesses, voilà où on peut améliorer. Vous avez de plus en plus d'outils automatiques qui vous disent donne-moi le DPE et puis je sortirai une estimation de travaux. Ces outils-là, après, il faut faire la triangulation dans l'habitat collectif avec ce qui va être facilement permissible, ce qui peut être interdit par la CoPro ou par les autorités locales qui peuvent dire c'est super l'isolation par l'extérieur, moi je veux pas de votre empiètement. Mais l'avantage de l'agent immobilier, c'est que moi, lire un PV d'AG d'un immeuble que je ne connais pas, ça ne me parle pas plus. En revanche, l'agent va vous dire, c'est le point B, c'est le point 53 et c'est le point 70 qui vous intéresse. Donc au moins, vous gagnez du temps. Mais après, c'est à vous de faire votre analyse, de dire, là, j'ai un risque. Est-ce que je suis confortable ou pas? Peut-être que l'Assemblée a déjà voté par le passé l'isolation par l'extérieur, qui a été retoquée par les autorités locales. Donc là, vous dites, ce scénario-là, il est peu probable. Donc je pars plutôt sur l'isolation par l'intérieur, je suis contraint par rapport à ça. Est-ce que la toiture, c'est quelque chose qui a déjà été regardé ou pas par le passé? Est-ce qu'il y a déjà eu des débats? Est-ce que cette amélioration a été rejetée par la copropriété? Parce que là, vous savez du coup que c'est pour vous, si vous êtes sur un bien qui va se situer en
au dernier
hauteur.
Étage.
Et le dernier point, ça reste quand même le marché local dans lequel vous investissez et le type de bien. Ce que l'on voit, en tout cas nous, chez Goflin, quand on a fait l'analyse, c'est que les T1, T2, T3, en ville sont les biens les moins touchés, en tout cas dont le prix va être le moins affecté par le DPE parce que c'est là qu'il y a une concentration de demande la plus forte. Si on est sur des surfaces plus importantes, on a plus de marge de négociation. Donc par rapport à votre question en tant qu'investisseur, est-ce que j'achète un T5 qui va être vraisemblablement plus décoté si c'est une passoire thermique et est-ce que j'en fais une colocation après pour le louer?
Pourquoi pas.
Est-ce que j'en fais, donc en fait c'est du co-living, plus ou moins adapté, plus ou moins sur mesure. Est-ce que c'est un bien que j'achète pour moi? Parce que je me dis, j'ai une famille qui grandit et finalement, je fais une bonne affaire sur le prix d'entrée. Ce que nous disent les stats que nous voyons, effectivement, c'est si je veux acheter une passoire thermique qui va être un T2 à Paris, plutôt bien situé, ça ne va pas forcément être le coup du siècle. Sauf si le vendeur a des contraintes particulières qui font qu'il va devoir vendre vite, mais statistiquement... Il y a moins de chances que vous y arriviez.
Pardon, mais pour parler comme sur les marchés, parfois, il faut savoir prendre sa paume. Quoi.
Oui, il faut couper sa position, notamment si vous êtes sur un bien qui se déprécie. Donc là, c'est plutôt la problématique du vendeur. Et ce que l'on voit, c'était, je crois, BPCE, qui avait fait une étude en février 2024, qui disait que déjà 67% des vendeurs vendent pour redevenir acquéreurs. Donc certains se disent, ce bien-là, peut-être que je l'ai amorti, donc je peux prendre ma paume, effectivement, je n'irai pas chercher le complément de valeur, parce que les travaux, ça peut être compliqué. Est-ce que je vais trouver l'entreprise RGE ou pas, ou est-ce qu'il va falloir un an pour qu'elle vienne? Mais dans ce cas-là, je ne sais pas à quelle sauce je serai mangé par le marché à ce moment-là. Donc je prends ma paume, et effectivement, je réinvestis ailleurs, en me positionnant en tant qu'acquéreur, en cherchant moi-même à faire une affaire en tant qu'acheteur de passoires thermiques potentiellement.
Mais ce qui est ultra positif dans ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, cet exercice de transparence que vous avez fait et que vous appelez tout le monde à faire, qu'on soit vendeur ou acheteur, c'est aussi des outils pour mieux négocier, en fait.
Bien sûr.
Qu'on soit acheteur et donc évidemment négocier à la baisse, ou vendeur pour valoriser son patrimoine et expliquer que non, que ça vaut ce que ça vaut.
Que ça vaut ce que ça vaut. L'agent immobilier le fera. De toute façon, lui, il va se préparer à être attaqué sur son prix, dans un DPE faible.
Justifie sa prime.
il justifie sa prime. On voit des agents qui incitent de plus en plus les propriétaires à faire eux-mêmes des plans de travaux. Comme ça, lorsque l'acquéreur vient en disant c'est temps, le propriétaire peut dire moi j'ai déjà fait
voilà le potentiel en fait.
Voilà combien ça vous coûte. C'est pas 40 000 euros, c'est 25 000 euros. Alors après, vous pouvez discuter si ça vous plaît ou pas. Mais en tout cas, vous avez une base de discussion, que vous soyez acquéreur et surtout que vous soyez vendeur. Vous avez intérêt à être armé. Parce que l'acquéreur standard, dans le contexte actuel du DPE, va chercher à en extraire de la valeur. Mais c'est normal comme comportement.
Un peu plus de transparence finalement, c'est ce qu'on peut anticiper de ce DPE. Vos conseils pour acheter ou en tout cas, comment dire, évaluer l'opportunité d'achat d'une passoire thermique, c'est de travailler main dans la main si possible avec l'agent ou avec le propriétaire en direct pour décrypter le DPE avec les infos à disposition. Évaluer les travaux et le potentiel de ce bien. Vérifier le chauffage, ça c'est la clé de voûte. Et puis, bon, on l'entend, se faire accompagner par des professionnels. Je précise que GoFlint, à la tête duquel vous êtes, est une société d'annonces immobilières réservée au B2B. Donc ces professionnels, vous les connaissez. Vous pensez qu'ils vont avoir la bande passante là, pour gérer le chantier que ça va être ?
Alors c'est une question qui est, quand on leur pose, qui est assez excellente. C'est que certains se disent que c'est une opportunité énorme pour nous, parce qu'on a des millions et des millions de passoires à mettre sur le marché avec des vendeurs qui commencent à avoir l'idée qu'il va falloir, comme vous disiez, prendre une paume. Donc ce sont des vendeurs plus faciles à travailler. Et puis on voit certains agents qui disent « Moi, je ne veux pas y toucher. » Parce que c'est trop compliqué, c'est trop de maux de tête. Et finalement, j'ai assez de biens qui vont être du B, du C, du D. Je n'ai pas besoin de mettre les pieds dans cette galère.
On va le dire comme ça.
Mais ceux qui veulent y aller, on pense qu'ils vont pouvoir faire de bonnes affaires pour eux-mêmes. Parce que vous avez un terreau avec un acheteur qui va être relativement agressif et un vendeur qui va être relativement... compréhensif.
Mireille Gravy-Louyou avec nous dans Tout pour investir, pour décrypter l'intérêt d'un achat de passoire ou de bouilloire thermique. Merci beaucoup.
Merci
pour
beaucoup.
Ce mode d'emploi. Chère Marie, à lundi.
À lundi.
À lundi pour plus d'immobilier, pour plus de logements, pour plus de DPE, pour plus de chantiers, rénovation énergétique. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay comme l'ensemble de nos séquences immobilières sur notre plateforme et notre site BFM Business.